Il est 19h, presque 23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
On a eu toute la soirée d'hier et toute la journée aujourd'hui pour faire le tour de ce chiffre d'abstentionnistes qui reste le marqueur de ce scrutin, puisqu'on le donne en pourcentage le plus souvent. Je vais vous le donner en chiffres, 47,7 millions d'électeurs en France. 30 millions ont choisi de ne pas aller voter, c'est beaucoup, on l'a dit. Mais, et maintenant ? Comment remobiliser pour le deuxième tour? Peut-on remobiliser pour le deuxième tour? Et qu'est-ce qu'on dit? Si les abstentionnistes ont voulu signifier leur rejet total de la politique, on a du mal à voir comment, en une semaine, ils auront le sentiment que leur vote compte. S'ils ont juste préféré faire autre chose et ont un brin de culpabilité, il faudra remettre de l'enjeu dans cette élection, parce que c'est peut-être ça qui a manqué. C'était quoi le débat de fond? En plus d'un scrutin difficilement lisible, d'un couplage avec les départementales si confus, qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs les départements ou presque lors des soirées électorales. Alors on peut bien sûr parler des fusions, nous le ferons si vous le voulez, des listes de gauche à Paris par exemple, qui ne feront qu'une et ailleurs. On peut parler du recul du Front National, c'est une réalité, de La République En Marche qui décidément n'existe pas hors du président, c'est une réalité aussi, des Verts qui sont là et bien là, mais restent au coude à coude avec les socialistes quand ils pensaient désormais être la voix de la gauche, et de tout ce que ça veut dire pour l'après et pour le scrutin de 2022. Mais est-ce qu'on sait vraiment tout ce que cela veut dire? Réellement. Est-ce que les cartes sont réellement rebattues quand on a si peu voté? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos électeurs et nos non-électeurs? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première a 20 ans, elle s'appelle Chiara. Bonsoir Chiara, bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute?
Alors non, j'appelais ce soir parce que j'ai voté du coup pour les élections. Mais je connais beaucoup d'amis à moi qui l'ont pas forcément fait, des gens de ma génération qui l'ont pas forcément fait. Et en fait, au final, je les comprends un peu parce que moi aussi, jusqu'au dernier moment, je voulais pas forcément me déplacer. Au-delà de me déplacer, le souci, je pense que c'est notre génération, elle est très anxieuse et elle veut vraiment agir et elle veut être vraiment sur le premier plan. Et donc, je vois beaucoup d'amis à moi qui, au lieu de voter, vont plutôt en manifestation, vont plutôt dans des associations, essayent vraiment d'aller sur le terrain pour essayer d'agir, parce qu'ils ont l'impression que simplement, c'est ce qu'on ressent, que si on vote et que voilà, la politique ne va pas forcément nous aider dans le fond et ne va pas forcément aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup.
Et du coup, pourquoi vous avez voté, Chiara? Parce que j'imagine que vous manifestez aussi avec vos amis. Pourquoi vous vous dites toujours que quand même la corde, le lien peut-être entre la manif et ce qui peut se passer derrière passe quand même par l'élection?
Moi personnellement, c'est parce que c'était ma première élection en 2016. Enfin, en fait, je me suis dit que j'allais le faire parce que j'ai 20 ans. J'ai eu le temps de me renseigner aussi sur les programmes, chose que je pense que beaucoup de jeunes n'ont pas le temps après la crise du Covid. Et aussi, honnêtement, départemental et région, ça m'intéressait plus limite que national, parce que c'est encore une fois pour moi vraiment se fixer sur une zone, sur un endroit et sur être au premier plan en fait, vraiment sur un endroit. Je ne sais pas si je suis très claire, mais
si.
En tout cas, voilà.
Et j'ai une dernière question. Vous habitez où, Chiara?
Moi, j'habite à côté de la Défense, quoi.
D'accord, ok. D'accord. Bah, c'était le sens de ma question, en fait. Vous êtes Île-de-France. Votre région, c'est l'Île-de-France,
oui,
en
oui,
tout cas. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette jolie entrée en matière. Attendez, vous allez voter au deuxième tour ou pas?
je pense, il faut que je vois ce qui se passe en Île-de-France et il faut que je reste informée. Mais c'est très compliqué à suivre aussi.
Écoutez, continuez à nous écouter. Vous allez voir, c'est pas si difficile. Merci mille fois, Chiara. Merci vraiment pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. Frédéric Savic qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à Paris. Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bruno Cotresse est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS et au CVPOF, évidemment, Yael Gauz est avec nous. Bonsoir Yael.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On rejoindra Pascal Roche dans un instant, qui est rédacteur en chef de France Bleu Loire-Océan, pour avoir une vision sur l'une de ces régions qui effectivement a été assez massivement abstenue et dans laquelle il se passe quand même des choses intéressantes. Au fond, Frédéric Savicky, notre amie Chiara, est très représentative de son âge quand elle dit... Peut-être que moi j'ai voté, c'était la première fois, mais peut-être que on est plus efficace dans la rue, on est plus efficace avec d'autres actions. C'est là que le fil s'est rompu au fond, non ?
Oui, elle est à la fois représentative et pas du tout représentative.
Alors, parce qu'elle a voté, et en même temps...
Elle est représentative d'une certaine ambivalence ou ambiguïté. C'est sûr que chez beaucoup de jeunes, puisqu'on estime à peu près 80-82% des jeunes qui n'ont pas voté. Donc, alors c'est une tendance qui n'est pas propre à cette élection, qui était assez ancienne. Mais effectivement, il y a le sentiment qu'on peut agir tout aussi efficacement autrement. En manifestant, effectivement, en faisant des pétitions, par l'action associative. Mais néanmoins, une bonne partie des abstentionnistes ne sont pas forcément des gens qui vont s'exprimer autrement. C'est-à-dire qu'il y a des abstentionnistes qui sont, on va dire, relativement politisés et qui, en conscience, au fond, ne vont pas voter parce qu'ils estiment que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, si on peut dire. Et ils ont un certain nombre de raisons pour ça. Les programmes des partis au niveau régional ne sont pas toujours très tranchés. Bon. Et puis, il y a aussi effectivement toute une partie de gens qui sont dans le désespoir et qui pour autant ne se mobilisent pas par d'autres moyens d'action, sinon à l'élection quand même présidentielle où là, traditionnellement, la participation est beaucoup plus élevée.
Et on va y venir effectivement à ça. Moi ce qui m'intéresse chez Chiara, notamment Yael Gauz et aussi chez d'autres, c'est précisément qu'on peut aller manifester, faire des pétitions, etc. Mais c'est qu'on ne voit jamais qu'il peut y avoir un lien avec son vote derrière. Est-ce que ça veut dire que ce lien, à leurs yeux, n'existe pas ? Il n'y a pas de rapport, en fait, entre ce qui peut se passer dans la rue et ce qui se passera derrière au Parlement ?
À 87% d'abstention chez les 18-24 ans, oui, la question se pose avec urgence. Et c'est vrai que je discutais avec des ministres à la mi-journée, qui les bras leur en tombaient, parce que considérer que le vote ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il faut tout reprendre à zéro.
Oui.
Si on considère que voter ne change pas la vie, ou la change trop lentement, ou ça passe par trop de filtres, je sais pas, parlementaires, de navettes, et ça prend des mois et des mois, alors on oublie l'essentiel de la République. Et ça, s'il faut reprendre ça à zéro, c'est extrêmement important et c'est urgent. Parce que le danger dans ce genre de débat, c'est de faire de l'antijeunisme. Il n'y a rien de pire que de braquer une génération contre une autre. C'est contre-productif. Mais on arrive à un moment où, effectivement, on doit se poser la question de... aller dans l'urne, qu'est-ce qui se passe derrière ? Qui j'élis ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont ses compétences ? En quoi peut-il m'être utile demain ? Dans quel domaine ? Et puis si je vote ensuite à l'Assemblée, c'est pourquoi ? Et si je vote pour le président, c'est pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec le quinquennat, il n'y a plus qu'une seule élection suprême qui mobilise toute l'attention et médiatique et politique, c'est la présidentielle. C'est le rendez-vous suprême. Et il y a plein d'autres choses entre les deux.
Et du coup, Bruno Cotterêts, je vais vous poser la question à l'envers. Puisque, en effet, les gens semblent penser que seule l'élection présidentielle compte parce qu'on a présidentialisé à mort ces rendez-vous politiques, au fond, est-ce que il faudrait jouer avec ça, c'est-à-dire se dire que alors je ne sais pas s'il faut regrouper à l'américaine, regrouper différemment de ce qu'on a regroupé là, parce que visiblement les gens étaient un peu perdus entre les régionales et les départementales.
À chaque fois que je dis ça, je me fais engueuler parce qu'on considère que c'est une chance de pouvoir voter tous les ans en France. Moi, je pense qu'il y a une déperdition du sens, mais c'est un débat.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Bruno Cotterêts, pour est-ce qu'il faut au fond repolitiser différemment les élections intermédiaires pour que les gens le sentiment qu'elles ont la même importance que l'élection présidentielle. Ou est-ce que, pardon de le dire comme ça, il faut se dire, bah oui, la principale élection, c'est l'élection présidentielle et le reste est en dessous.
Non, effectivement, la question vaut le coup d'être posée. Quand on reprend les élections régionales, la série, lors des premières élections régionales en 1986, le même jour étaient organisées des élections législatives qui, en plus, étaient des élections législatives de combat, qui vont donner lieu à la première cohabitation sous François Mitterrand. Ce sont des élections législatives dont vraiment le contexte est un contexte de très forte polarisation politique. Et ce jour-là, on a voté pour les élections régionales et ça a donné 75% de participation. Alors, il ne faut pas en tirer une règle générale, bien évidemment, et organiser toutes les élections sur un seul jour, ça prendrait aussi le risque de tout présidentialiser, où à ce moment-là, tout deviendrait concentré sur l'élection présidentielle, où on voterait pour le président, et en même temps, on lui donnerait une majorité aux régions, une majorité aux départements. Mmh. C'est déjà le cas aux élections législatives qui suivent la présidentielle de 5 semaines, et ces 5 semaines ne suffisent plus à donner aux élections législatives leur propre rythme, leur propre temporalité, et d'ailleurs, aux élections législatives de 2017, on a l'abstention majoritaire aux deux tours.
La question que je me pose, Frédéric Savicky, c'est comment on recrée un instant politique, en fait. Parce que c'est ça que les électeurs qui se sont abstenus ne voient pas. Il n'y a pas d'instant politique. Ça veut dire qu'on ne voit pas l'enjeu non plus qu'il y a derrière. S'il n'y a pas d'enjeu, pourquoi je participerais ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors l'enjeu, c'est généralement les partis politiques qui doivent le donner. C'est aussi les pouvoirs institutionnels. C'est-à-dire que si l'élection présidentielle se voit prêter une telle importance, parfois excessive, c'est effectivement que le président de la République a beaucoup plus de pouvoir qu'un président de région et même qu'un maire aujourd'hui. En tout cas, il est perçu comme celui qui peut faire beaucoup. Alors en particulier dans cette situation de Covid de laquelle nous sortons, ça a renforcé encore ce centralisme. Et d'ailleurs, on a beaucoup critiqué la façon dont la France avait été gérée, on peut être surpris de voir qu'à la faveur de ces élections locales, on n'est pas débattu justement du mode de gouvernement et du mode d'organisation de notre État, en disant, après tout, peut-être qu'un système plus décentralisé était plus efficace que ce qu'on a connu. C'est passé complètement à la trappe. Donc là, il y a une responsabilité claire, à mon avis, de ceux qui ont participé à cette élection, même si évidemment, le contexte du Covid ne facilitait pas la campagne, mais enfin, on a quand même à commencer par le gouvernement. Le gouvernement a envoyé ses ministres, a nationalisé l'élection et a très peu parlé finalement de ce que pouvait être la version en marche des pouvoirs régionaux ou des pouvoirs départementaux. Et Dieu sait que des compétences existent. Dieu sait qu'il y avait une loi de décentralisation qui était en train d'être débattue. Et donc, voilà. Alors, je pense que il ne faut pas inverser effectivement la responsabilité. C'est pas les électeurs. Les électeurs n'y sont pas complètement pour rien, mais enfin, ils ont face à eux, finalement, des partis, puis des élus sortants qui jouent une carte de la dépolitisation. Hein. Les enjeux sont pas assez marqués. Si on se replace dans les années 70, au début des années 80, il y avait une participation très forte aux élections locales et aux élections nationales, et les deux enjeux étaient très très mêlés, c'est-à-dire que quand les gens votaient pour un maire de droite ou pour un maire de gauche, ils savaient que il y aurait pas le même résultat. Et au niveau régional, c'est pareil. Aujourd'hui, finalement, il y a une standardisation des positions et des discours qui ne facilitent pas la lisibilité, évidemment, du scrutin.
Et c'est pour ça que je parlais d'enjeux tout à l'heure, Yael Gauze, parce que là, en l'occurrence, effectivement, on a bien vu, d'ailleurs, on voit bien dans les chiffres que c'est dans les endroits qui sont les plus polarisés qu'on vote le plus. Donc, quand on a vraiment le sentiment qu'il y a une idée contre une autre, là, on y va. Ici, est-ce que c'est le contexte ou est-ce que c'est le moment électoral, au fond ? Est-ce qu'il y avait vraiment grand-chose à dire de ces élections régionales ?
Il y avait...
Pour séparer les uns des autres ?
C'est les deux, c'est-à-dire que la date choisie pose problème depuis le début en réalité. Et beaucoup disent qu'Emmanuel Macron a eu tort de les organiser à ce moment-là, mais c'est pas lui en particulier qui les organisait. Lui, il voulait les enjamber, il voulait même les renvoyer après 2022 parce qu'il voulait que les présidents de région soient alignés sur son plan de relance. Ça, c'est la polémique de l'an dernier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a consulté au maximum. Et qu'est-ce qu'on dit les consultations ? Que la droite voulait absolument ces élections-là en juin parce qu'il y a un enjeu présidentiel derrière. Faut départager Pécresse, Bertrand et Wauquiez. Et puis, vous avez un parti, en fait, un seul, le Modem, qui régulièrement depuis le mois d'avril disait ne les faisons pas maintenant avant l'été parce que les Français n'auront pas la tête à ça. On les fait à l'automne, mais l'automne c'est tard. Et puis la consultation finale de Jean Castex avec les maires a montré que 2/3 des maires étaient prêts à les organiser avec assesseurs, mais un tiers était plutôt hostile voire réticent pour des raisons logistiques. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, un tiers des maires de France qui ne se sentaient pas prêts à organiser cette élection parce que c'était pas le moment logistiquement. Et ensuite, sur le vous disiez sur les enjeux, il y aurait pu y en avoir des enjeux, effectivement, sur la santé, compétences des régions ou pas, etc. Mais vous avez vu sur quel terrain est partie la campagne.
On a bien vu sur quel terrain était partie.
Et les items, sécurité, délinquance, immigration, le trio de tête dans les priorités des Français sur ces élections. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est parce que on leur montre ça, on leur parle de ça aux Français, que derrière ils se disent ah c'est ça l'enjeu et donc après or c'est complètement hors champ de compétence. Si Renaud Muselier parle de créer des places de prison en région, 5000 places je crois, mais c'est pas de sa compétence. Quand il va chercher du Spoutnik à l'étranger pour les vaccins, là aussi il sort de ses compétences. Il y a plein d'exemples comme ça, on pourrait dire que les présidents de région ont parlé de compétences qu'ils n'avaient pas, ce qui brouille le message.
Marie est avec nous justement. Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, je vous appelais parce que je suis quelqu'un d'assez motivé par le vote, toujours très impliqué. Et pourtant, hier, j'ai failli pas voter parce que j'avais un mariage à l'autre bout de la France. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas une forme à changer dans le vote, un peu à l'américaine, de regrouper les élections, de mettre un jour fixe, pourquoi pas en semaine, un peu comme ils font tous les deuxièmes mardis de novembre, par exemple. De demander aux employeurs, du coup, des horaires aménagés ce jour-là. Et pourquoi pas de tirer au sort aussi les scrutateurs et les présidents, comme on ferait pour les jurés de tribunaux. Et du coup, d'impliquer une population plus large. Moi, j'ai été présidente de bureau, et c'est toujours les mêmes qu'on voit qui s'impliquent. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement tirer au sort des gens qui sont plus éloignés du vote, du coup les impliquer un peu plus.
Alors en même temps, il faut que c'est eux qui comptent, hein. Donc il faudrait quand même avoir envie de compter, etc. Et pas qu'on se retrouve avec des moments comme ça qui peuvent être compliqués parce que les gens ont envie de faire autre chose. Mais ça nous intéresse ce que vous nous dites, Marie-Bruno Cotterès. Est-ce qu'on se dit pas qu'il faudrait tout remettre dans un peu dans le shaker quand même, et y compris ce que nous dit Marie sur la manière dont ça s'organise, les assesseurs, etc. Redonner de la politique avec un grand P au moment de cette élection-là.
Ce qui est certain, c'est que l'un des ressorts sur lequel il va falloir rejouer, et ça me semble assez inéluctable, c'est quand même tout ce qui concerne les modalités pratiques de l'organisation du vote en France. Si on veut essayer d'endiguer ce phénomène de l'abstention, il faut jouer sur deux ressorts. Le ressort premier, c'est de faciliter la tâche de l'électeur. Il y a des personnes qui travaillent le dimanche, il y a des gens qui ont des soucis pour faire garder leurs enfants. Donc effectivement, on pourrait songer à peut-être, alors ça a été fait par certains pays européens pour les élections européennes, par exemple de tenter d'organiser le vote sur deux jours, le samedi, le dimanche. Le Royaume-Uni vote habituellement le jeudi. Ça n'a pas toujours suffi à endiguer le phénomène de l'abstention, qui existe aussi au Royaume-Uni. Mais c'est vrai que tout ce qui va dans le sens de rendre l'acte de vote plus fluide, plus simple, en particulier pour les gens qui ont des charges de famille, pour les gens qui travaillent le week-end, pour les gens qui travaillent de nuit, etc. Donc effectivement, là, de ce point de vue-là, on a à gagner sans aucun doute en termes d'organisation et de facilité du vote. Il y a une problématique qui, dans les jours qui viennent et les mois qui viennent, à mon avis, va ressurgir. C'est la problématique de restaurer le vote par correspondance en France, qui était possible jusqu'au milieu des années 70. On n'en a sans doute pas fini non plus avec l'idée du vote électronique. Alors, le vote électronique à la française, c'est au fond un ordinateur de vote au bureau de vote. Il y a des équipes du CNRS qui sont en train de réfléchir, des équipes d'informaticiens, comment est-ce qu'on pourrait essayer de sécuriser le vote digital, vraiment le vote électronique. Et sans aucun doute que de ce point de vue-là, on a beaucoup de progrès à faire. Les collectivités locales se mobilisent beaucoup pour les Français qui ont des difficultés, par exemple, pour amener les personnes qui souffrent de handicap, pour les amener, leur faciliter l'accès au bureau de vote, bien évidemment. Mais il reste beaucoup de progrès. Et tout ce qui va dans ce sens-là sera bon à prendre.
Moi, je suis un peu étonnée, Frédéric Savicky. Au fond, est-ce que c'est l'accès au vote qui pose problème, la facilité du vote, ou est-ce que c'est la motivation pour aller voter? S'il y avait un meilleur accès, est-ce que réellement, on aurait vu ce taux de participation bien plus haut?
Quand on en arrive à de tels taux de désertion des bureaux de vote, c'est pas parce que des gens seront en week-end ou à l'autre bout de la France pour un mariage comme notre auditrice tout à l'heure. Donc évidemment, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Il y a le levier de l'inscription sur les listes électorales. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été menées en sciences politiques, notamment par Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier, qui ont montré effectivement que un des problèmes importants, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils déménagent, ne font pas les efforts pour se réinscrire. On a un vrai problème aussi avec les étudiants, on parlait des jeunes tout à l'heure, qui souvent font leurs études à un autre endroit.
Et qui ne s'inscrivent pas là où ils font leurs études, et donc ne rentrent pas le week-end pour aller voter.
Ils ne vont pas évidemment se payer un billet de train pour rentrer. Donc effectivement, pour tout cela, il faudrait assouplir le vote par correspondance. La procuration, ça reste encore très très compliqué. Il faut faire faire des démarches. Le portage est limité à deux par électeur. Il faut trouver un électeur qui vote. Donc effectivement, il faut travailler tout ça. Il faut probablement aussi réfléchir à des formes... Alors, Jean-Luc Mélenchon parlait de la reconnaissance du vote blanc, mais il est clair que la légitimité de n'importe quel exécutif ou d'une assemblée qui est élue avec moins de 10-15% des inscrits pose problème. C'est-à-dire, là, il y aurait une incitation effectivement beaucoup plus forte qui pèserait sur les candidats à proposer effectivement et à faire plus d'efforts. On s'en sortira pas avec des partis politiques aussi faibles. Dans un pays de 65 millions d'habitants, la démocratie, ça passe par des organisations et donc évidemment par des militants, pas seulement pour tenir les bureaux de vote, pour aller convaincre les gens, et donc tout cet affaiblissement qui s'inscrit dans la longue durée fait que on en paye aujourd'hui les conséquences, j'allais dire à plein.
Bonsoir Pascal Roche.
Bonsoir.
C'est avec vous qu'on voudrait sortir de Paris précisément. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Loire-Océan à Nantes et on vous a choisi, pardon de le dire comme ça Pascal, vous faites un peu l'appartement témoin aussi de ce moment électoral en France avec un taux d'abstention chez vous qui est vertigineux, 69,27, donc c'est très haut, avec une présidente sortante, donc la fameuse primo sortant marche chez vous aussi avec Christelle Morançais, avec probablement une triangulaire, je parle sous le contrôle de Yaël aussi, que je vois lui, mais avec un
tout
François de Rugy qui pour l'instant se maintient.
Ça fait triangulaire quand même.
Et vous aussi, absolument. Et dans une région aussi, Pascal, qui d'ordinaire, on va dire, est plutôt une région qui va voter. Moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé chez vous, en fait. Qui a voté, qui n'y a pas été, alors qu'on s'attendait à ce qu'il le fasse.
Alors, c'est une région qui vote, effectivement, mais qui n'est pas non plus dans les records de participation. On n'est pas en Corse. Hein. Mais il y a cette tradition d'aller voter avec une abstention. Vous voyez, par exemple, en 2015, l'abstention, elle était, sur les dernières régionales, elle était à 51%. Donc, un électeur sur deux se déplaçait. Là, on est beaucoup plus haut, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et ce qui était... Alors, on a toujours tendance, quand on décortique les scrutins, à regarder les quartiers populaires des grandes agglomérations. On se dit, c'est là qu'on va trouver les abstentionnistes. C'est vrai, ouais, ils sont là. On en a trouvé à Nantes. Vous avez dans certains bureaux, dans certains quartiers, et donc dans certains bureaux, il y a des taux d'abstention qui frôlent les 86%. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, justement. Parce que l'abstention, ce qui est intéressant de regarder sur ce scrutin-là, c'est qu'elle a été... très forte sur le littoral, elle a été très forte également les zones rurales de la Loire-Atlantique ou de la Vendée ou d'autres départements comme la Sarthe dans la région. Et elle a été très forte, notamment, et c'est très intéressant, dans le bassin d'emploi, dans le bassin industriel, tout autour de Saint-Nazaire. Mmh. Et là, on est en plein cœur d'un électorat populaire, d'un électorat qui d'habitude allait voter et allait voter aussi et commencer à voter pour le Rassemblement National. On a vu le score du feu Front National évoluer scrutin après scrutin. Là, il s'est effondré. Alors, en regardant les résultats, on se rend compte que les gens dans ce secteur ne sont pas allés voter. Vous avez Trignac, un ancien bastion communiste, Donge, avec ou Total, le groupe Total à sa raffinerie, Montoire de Bretagne, où sont installées les principales infrastructures portuaires. Dans tout ce secteur ouvrier, populaire, c'est 75 à 77% d'abstention. Voilà, c'est la colère qui s'est exprimée. Moi, je regardais tout à l'heure, je me disais, ce qui est étonnant sur ce scrutin, on dirait que chacun a voté pour sa colère. Si je vous dis ça, c'est parce que dans ce secteur de Trignac, de Donge, autour de Saint-Nazaire, pendant l'épisode des Gilets jaunes, on a vu pas mal de ronds-points occupés. Il y avait la Maison du Peuple qui concentrait énormément d'activités, de militants qui se regroupaient. Donc c'est un mouvement qui a tenu et qui a tenu sur la durée dans ce secteur-là. Il était très fort. Mais donc il y avait une colère. Mais vous regardez un peu plus loin. Vous allez tout près de Nantes, un village qui s'appelle Saint-Aignan-de-Grandlieu. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous venez à Nantes en avion, c'est là que vous atterrissez. C'est ce village qui se retrouve juste au pied des pistes de l'aéroport. Et ce village, il est dans la colère depuis des mois et des mois, depuis qu'on a dit que l'aéroport resterait là. Eh bien, dans ce village, vous avez 74% d'abstention. Mmh. Et à Notre-Dame-des-Landes,
alors j'allais vous poser la question,
parmi longtemps été en colère.
Exactement, dans cette colère-là, de gens qui ont, on va le dire comme ça, je vais peut-être en faire hurler certains, mais qui ont gagné ce combat-là, est-ce qu'on a voté?
Est-ce qu'on a voté? On
à Notre-Dame-des-Landes.
À Notre-Dame-des-Landes, vous avez 2 électeurs sur 10 qui sont allés voter. Et vous vous dites, mais finalement, ils l'ont gagné leur combat, il n'y aura pas d'aéroport. Eh bien, ça a laissé tellement de traces, tellement... Cette colère, elle a duré tellement d'années, elle est tellement profonde. Les blessures sont tellement profondes vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, vis-à-vis des déceptions que les uns et les autres ont pu avoir, ou les espoirs, ça dépend où on se place. Et aujourd'hui, 2 électeurs sur 10... quasiment 80% d'abstention à Notre-Dame-des-Landes. Mmh.
Merci beaucoup Pascal Roche. La question que je me pose en écoutant Pascal, Bruno Cotterêts, c'est ces électeurs-là dont on entend la colère bien différente, chacun effectivement dans son couloir, ces électeurs-là sont-ils des électeurs qui ont jugé que ces élections-là, régionales et départementales, n'allaient pas résoudre leurs questions, mais on se reverra en 2022 au présidentiel, ou sont-ce à votre avis des électeurs qu'il faudra aller chercher par le col en 2022?
Sans doute les deux. Sans doute les deux. Il y a évidemment une colère dans l'ensemble du pays. Nous, on le mesure par des indicateurs que l'on mesure régulièrement dans les enquêtes du CEVIPOF. On voit que en France, il y a aujourd'hui un sentiment à la fois de peur, de crainte diffuse qui est très élevé, mais aussi de colère. On sait que la colère est un des ressorts très importants du vote pour le Rassemblement national, notamment. Et je crois qu'effectivement, on peut dire qu'une forme de cette colère a pu s'exprimer par une sorte de on va dire d'attitude consistant à dire bah, vous ne vous occupez pas de moi, je m'occupe pas de vous. Mmh. Vous traitez pas mes problèmes, je m'occupe pas de vous faire élire dans les assemblées, etc. Et effectivement, il y a bien là quelque chose qu'il faut absolument traduire après par du comportement de participation. Rien n'est pire en démocratie qu'une colère qui est sourde et qui ne serait pas politiquement traitée. C'est le rôle normalement justement des élections, c'est d'arriver à canaliser, à offrir un débouché politique à ceux qui ressentent de la crainte, de la colère, et de faire que l'expression de cette colère soit à l'intérieur de l'enceinte démocratique. N'oublions jamais que nous avons vécu en France une crise, la crise des Gilets jaunes, qui avait une dimension d'insurrection populaire comme rarement un pays européen en a connu au cours des dernières années.
Et traduire en politique, effectivement, c'est ce qu'on disait avec le premier coup de téléphone de Chiara, qui voit bien les jeunes manifester, mais qui ne voit pas la traduction politique derrière. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Laurent.
Donc, moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est un peu ça qui me rend un peu colère, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas voté, hein, je vais le dire clairement. C'est parce que on voit que les régions, malheureusement, n'investissent pas comme il le faudrait. L'accès au handicap devient compliqué, surtout quand on est au fauteuil roulant, parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans certaines gares, par exemple, c'est très difficile d'accès. Il y a de moins en moins de personnel. On se bat pour avoir des machines adaptées pour qu'on puisse acheter nos billets. Sinon, on se prend des amendes à bord des trains.
Je vois bien ce que vous dites, Laurent. Donc, vous qui êtes dans cette situation-là, vous ne voyez pas ce qui change à l'échelle de votre région ou de votre département. Donc, à quoi bon aller voter? C'est ça que vous nous dites, en fait.
D'une façon, ça ne changera rien pour moi, puisque je serai toujours confronté au même problème. Parce que le problème, ça fait des années qu'on se bat. On leur dit, mais c'est bien, vous distribuez des programmes électoraux, mais faites-les en braille. Et il n'y a personne qui est sensibilisé là-dessus.
Merci beaucoup, Laurent. C'est intéressant, parce que ce que ça dit aussi, Frédéric Savicky, ce que nous dit Laurent, c'est l'élection ne changera pas mon quotidien. Donc, à quoi bon, en fait? Et alors, il a raison, Laurent. Pourquoi il n'y a toujours pas des programmes en bras, et pourquoi on ne fait pas de progrès de ce côté-là? Et en même temps, on a aussi envie de lui dire, l'élection est un collectif, et chacun va chercher un petit bout d'individualité. Forcément, il peut y avoir des déçus au milieu.
C'est-à-dire que quand il n'y a plus de grands projets, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément d'édifier le socialisme ou de passer du jour au lendemain à la société de basse consommation, mais en tout cas, quand il n'y a pas de lignes directrices fortes qui rassemblent autour de valeurs, il est clair que les électeurs se rabattent finalement sur leur intérêt personnel. Il n'y a rien de mal à ça. Donc chacun va regarder finalement à l'aune ses préoccupations. L'usine du coin, elle ferme. La gare est supprimée. L'école est déplacée à 15 km. Donc je suis en colère. Donc évidemment, on est dans une situation où finalement on attend désormais surtout du politique, puisqu'il ne peut pas changer la société, ou en tout cas de une promesse de société meilleure, qu'il règle nos problèmes. Le problème, c'est que les problèmes des uns, évidemment, ne sont pas les problèmes des autres, que nous sommes dans une société très fragmentée, il n'y a plus des groupes sociaux, pourrait dire, autour desquels se créent des identités, des attentes, des revendications. Les syndicats ont exactement les mêmes problèmes dans leur base revendicative, et donc évidemment face à ce morcellement finalement des attentes, les politiques naviguent à vue souvent et sont amenés à faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, parce que la région, pour répondre à votre auditeur, a un budget qui est en France très limité par rapport à beaucoup de grandes régions européennes, et que le moindre je sais pas, installation va supposer que la SNCF cofinance, que l'État apporte également des fonds, que l'Union européenne abonde et que tout ça va prendre du temps, voilà. Et donc on est effectivement dans cette situation là, c'est-à-dire un repli finalement de chacun vers vers son horizon le plus immédiat.
Bruno Cotterêts, comment, j'ai presque envie de dire, faut-il remotiver pour le deuxième tour, en fait? Qu'est-ce qui ferait, c'est un peu ce que tu disais en introduction tout à l'heure, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'un abstentionniste du premier tour irait voter pour le second? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ou est-ce qu'il faut, laisser filer cette élection-là?
Non, il ne faut pas laisser filer. Je trouve que depuis hier soir, on voit que tous les candidats partout en appellent à la mobilisation de leur camp. Ça, c'est une très bonne chose qu'ils aient ce réflexe. Hein. Ce n'est pas seulement de la communication qu'ils faisaient hier soir. Je pense que tout le monde était sous le choc.
Il y a même certains électeurs qui se sont fait engueuler, Bruno Cotterêts.
Oui, visiblement. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve que les politiques sont bien dans leur rôle en appelant à la mobilisation. Pour mobiliser les électeurs, il y aura peut-être un peu plus de mobilisation parce que le tableau du deuxième tour, il s'est éclairci. Il y a des listes qui ont disparu du tableau. Donc l'offre politique va être peut-être un peu plus lisible. Bah, il faut que les candidats aux élections continuent d'expliquer aux électeurs leur programme, qui donne du sens. Effectivement, Frédéric Savicky a totalement raison. Ce qui fait vraiment l'intérêt de la démarche politique, je dirais même la noblesse de la démarche politique, c'est de permettre d'offrir aux électeurs ce sentiment que mes problèmes ne sont pas que mes problèmes. Je crois que j'ai des problèmes, mais en fond, ce sont des problèmes qui sont collectifs et dont la solution et collective. Et ça, c'est la puissance, on va dire même, des élections, de permettre d'offrir ce débouché aux électeurs. Il faut que les candidats continuent de labourer le terrain et de mobiliser, de faire leur rôle de candidat aux élections.
Yves, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Yves.
Oui, bah écoutez, je vais peut-être emporter les portes ouvertes, mais enfin, moi, ce que je retiens de cette élection, au-delà de l'effarement que procurent les résultats, c'est que quand même 68% des gens n'ont pas répondu à ceux dont on dit qu'ils les représentent. Et est-ce que ce n'est pas un vote en soi? Et pour moi, c'est pas une crise de la démocratie en tant que telle, mais c'est un rejet du système politique tel qu'il est utilisé par nos hommes et femmes politiques. Donc, les jeux et les enjeux de pouvoir là apparaissent clairement. On nous dit le département, c'est vous, la région, c'est vous, elle vous concerne. On a quand même quelques informations par rapport à ça. Et en fait, tout se passe comme si donc ceux pour qui on est allé ou pas allé, c'est selon voter, en fait, se servent des électeurs comme de pions avec lesquels ils jouent pour leur propre destin et leur propre glorieux, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Yves. Je vous ai vu réagir, Frédéric Savicky.
Oui, ça me faisait penser, alors je ne sais pas si notre auditeur le connaît, mais je l'invite à lire. Il y a un roman de José Saramago, qui est un écrivain portugais, qui s'appelle La Lucidité, et dans lequel il imagine justement un jour d'élection où 95% des électeurs votent blanc. Et donc c'est la panique, et ça va déboucher d'ailleurs sur un coup d'État. mais pour répondre à sa question, là les gens n'ont pas voté blanc, ou ils n'ont pas voté nul, ils ne sont pas allés voter. Donc c'est très compliqué ensuite d'agréger ça et de donner une signification de rejet clair et unanime de la classe politique. C'est-à-dire que donc ce qu'on pourrait souhaiter au fond, c'est que si une colère ou si une insatisfaction ou si sentiment que les hommes politiques ou les femmes politiques ne représentent pas leurs électeurs soit prédominant, il faudrait à minima qu'on fasse comme dans le roman de Saramago, c'est-à-dire qu'on aille mettre un bulletin blanc et que clairement soit signifié à ce moment-là un rejet du système, ce qui n'est pas le cas, parce que je pense que pour l'instant c'est plus compliqué qu'un simple sentiment général que les politiciens et les politiciennes ne pensent qu'à leur propre intérêt.
Et vous allez réveiller tous ceux qui sont pour comptabiliser les votes blancs, qui est un débat tellement récurrent, Yael Gauz.
Deux remarques. Un, si vous regardez dans chaque région, en moyenne, vous avez 10 listes par région, 10 programmes possibles à lire. Alors, encore faut-il que les professions de foi arrivent à domicile, mais tout est en ligne aussi. Les professions de foi sont en ligne, ne l'oublions pas. On se focalise sur le papier, mais aujourd'hui, le numérique permet d'avoir les professions de foi. 10 listes, 10 programmes par région, fois 13, ça fait 130 programmes en France quand même à peu près. Donc il y a du choix. Avant de faire du vote blanc, il y a du choix. Et ensuite, deuxième petite remarque, attention à l'idéalisation, j'allais dire presque naïve, du politique. Il y a deux choses chez un homme politique, et la conquête du pouvoir, ça fait partie de la démocratie. Comment on convainc l'électeur de voter pour soi, ensuite comment on applique ou pas le programme qu'on a promis. Mais ne projetons pas un idéal qui n'existe pas, nous sommes dans les choses humaines.
Alors eux projettent, vous le disiez tout à l'heure quasiment en introduction, Yaël, sur on se retrouve avec un concours effectivement qui de Wauquiez, qui de Pécresse, qui de Xavier Bertrand. Moi oui. Je voudrais savoir, selon vous, est-ce que vraiment du coup cette élection nous apprend des choses? Oui, il va y avoir des alliances, elles sont en cours, oui, mais est-ce que vraiment on peut s'en servir comme base de travail avant 2022?
Bien sûr.
Ou pas?
Oui, il y a quelques laboratoires en gestation, on le voit dans la relation entre l'ancien Parti Socialiste et la nouvelle écologie portée par les Verts. Comment ça s'articule? Vous voyez que les fusions se font un peu partout en région. Pour faire quoi ensemble demain? Pour porter une candidature commune ou pas? À droite, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va permettre de trancher le débat entre Bertrand, Wauquiez et Pécresse? Ça suffira pas.
Mais est-ce qu'on dit réellement le Front National est en baisse? Par exemple, le Front National est en baisse sur le Rassemblement National, pardon, sur ces élections-là. Est-ce que ça nous dit vraiment des choses de 2022?
Ça dit des choses, c'est parce que là aussi, on est tombé dans une bulle collective où on s'est tous auto-intoxiqués en considérant que le RN était très haut, très puissant, ouais. Surpuissant, en capacité de gagner la présidentielle. Depuis, j'en parlais avec un des cadres RN qui est très déçu ce soir, qui me disait, mais en fait, ça fait 10 ans que l'on baisse régulièrement aux municipales, aux européennes. On est en dessous. À chaque élection, on perd des points, on perd des élus, moins de listes aux dernières municipales qu'il y a 6 ans. Et ce qui incite l'électeur RN à aller voter, c'est quand il y a une certitude de victoire. Bah, elle est peut-être pas si certaine, cette certitude de victoire. Et quand il y a transgressivité, or, le RN se dédiabolise, se normalise, donc perd aussi sa spécificité.
Voilà, dans ces cas-là, on préfère la copie, au fond, puisqu'elle dit la même chose. C'est ça que ça veut dire, aux yeux des électeurs.
Vous constatez que le LR a mieux résisté au RN qu'on aurait pu le penser.
Ben écoutez, on se retrouvera ici, même heure, même endroit, la semaine prochaine, pour parler, j'espère, de choses un tout petit peu différentes. Merci vraiment à tous et portez-vous bien.